Absence, l'émission de Radio Campus Paris dédiée à la musique contemporaine.
Moi, je me suis pété les oreilles sur cette impro d'ailleurs.
Une émission où on parle tranquillement d'une musique intranquille.
Radio Campus Paris, la radio de l'amour et du communisme, apparemment.
C'est très drôle.
La vie de compositeur de la musique contemporaine est un peu déprimante. Enfin, je veux pas. Enfin, écoutez-en, mais sachez que.
On est comme des gamins dans, dans le grenier de grand-mère.
Quatre siamongs dans une cage qui chante une fugue. Bon, à partir de là, voilà, c'était...
Absence, une semaine sur deux, de 21h à 22h, sur le 93.9 et disponible en podcast.
Et bonsoir à toutes et à tous, et on est de retour en direct. Absence n'est pas mort. Oui, moi, oui, un chouïa. Oulala, on revient d'une giga, oulala, production à Radio France. 24 musiciens et musiciennes, 13 pièces, projets, je ne sais plus combien de compositeurs, compositrices, 4 heures de musique, des cheveux en moins, mais tout va bien. Vous, fidèles auditeurs et auditrices, vous m'avez peut-être entendu présenter le projet pendant 1 minute et 20 secondes sur France Musique. Dommage, ils ont coupé le meilleur moment. Ah, et ce moment-là, du coup, je vais le redire là ce soir, parce que c'est un peu le but de cette émission. À un moment, on me dit « Quel est mon rêve de composition ?» Je leur réponds « Bah, il y a deux jours, j'ai fait un rêve et j'étais à New York pendant une distribution alimentaire et il y avait une composition de moi et Lorraine, co-présentatrice de l'émission, cœur-cœur, où il y avait des cailloux musicaux et des gens jouaient sur ces cailloux et pendant ce temps-là, moi et Lorraine, on était posés sur un banc et on rigolait. » Et mon Dieu, pourquoi ça a été coupé quoi. Enfin, Laurent, si tu nous écoutes, ce n'est pas une flèche, mais presque. Dommage. Revenons à nos moutons. Avec nous, ce soir, on a le plus vieux des jeunes compositeurs. Voilà, comme ça tu me détestes déjà Régis. Et alors pourquoi le plus jeune? Car il est entre la pop et Boulez. Oui. Pourquoi le plus vieux? Car 18 ans c'est un bel âge pour composer de la merde. 56 c'est un bel âge pour composer des trucs stylés.
Ah merci, mais en fait je suis plus vieux que ça. Je vais avoir 58 ans en juin.
Alors il faut mettre à jour ton Wikipédia.
Ah oui,
pour me rattraper, je vais devoir faire de la lèche, je préviens.
D'accord.
Donc élève de Griset, décidément, ouais. Tu es le deuxième cette année.
Ouais.
Il occupe maintenant le siège anciennement destiné à Messian,
ouais.
Monsieur.
Attention, hein.
Prof à l'école normale ou anormale, mmh. Il enseigne la pâtisserie et l'éloquence, entre autres la composition. Et tu as remporté les victoires de la musique sans faire de scandale, parce que faut le souligner, parce que là dans tout ce qui court en ce moment sur les victoires de la musique. Mmh. Et pour finir cette intro qui dure plus longtemps que prévu, tu es avec nous ce soir. Bienvenue Régis Campo.
Merci Mickaël. Et je suis marseillais et j'enseigne au Conservatoire de Marseille.
Très bien.
Je voulais dire.
Eh ben, on fait une bise aux Marseillais, ouais. En bon parisien. et du coup, je pense, c'est là que finit mon introduction écrite et toutes mes questions. On va balancer un premier extrait. Alors, cet extrait, allons-y. Bah, il est pas là. c'est quoi? Je ne lis pas. Tu ne lis pas, très bien. Il me semble que c'était... j'ai très bien préparé mes fiches.
Ouais, on voit.
Ouais, très bien. Oui. Déjà, présente-toi un petit peu. Tu es compositeur.
Alors, oui, d'abord, j'ai amené comment ça s'appelle, un klaxon.
Et est-ce que tu fais du vélo?
Non, mais c'est en dehors.
Mais pourquoi tu...
Parce que si ta question ne m'intéresse pas et m'embarrasse, je fais ça.
Très bien, très
et
bien.
Je ne réponds pas.
Voilà. On adore. Et alors, moi justement, je crois que je voulais écouter de mémoire ce que tu m'avais envoyé en premier là.
Ah.
Ce truc.
Street art?
Non, pas du tout. Delirium, voilà.
Scherzo.
Le Delirium Scherzo. Alors, avant qu'on lance cette émission un peu rocambolesque, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, genre quelques clés d'écoute?
Oh yes.
On est comme sur France Musique. Est-ce que vous avez des clés d'écoute pour cette pièce?
Eh bien, j'ai 58 ans dans 2 mois et je dois analyser ma pièce. Et en fait, c'est une pièce pour orchestre qui a été composée pour le concours international de jeunes chefs d'orchestre de Besançon, qui existe depuis une 60aine d'années. Et un des tout premiers chefs qui a gagné le prix, c'était Seiji Ozawa.
Ok.
Il se trouve que cette année, j'ai composé la pièce pour la finale, où il y avait 3 chefs qui étaient sélectionnés sur 400 en fait.
Ah oui.
Ouais,
donc ils ont fait les présélections de partout en Corée, au Canada, tout ça. Et finalement, voilà, on est arrivé avec 20 candidats à Besançon, puis 8, puis 3. Et les 3 ont joué chacun ma pièce, composée exprès pour le concours.
Ok, très bien. Ça doit être intéressant de voir différents chefs se battre pour ta composition.
Mais en fait, j'avais le trac parce que j'avais l'impression de passer le concours. Parce que pendant la composition, je me disais, mais si le jury s'ennuie, je me disais, oh, c'est pas possible, cette musique, on l'entend 3 fois en plus. Mais c'est vrai, je pensais à ça aussi.
Ouais.
Et en fait, je voulais que ça soit un cadeau pour les 3, que ça soit un truc qui leur permette de s'exprimer, de faire du show même.
Ouais, ok.
Et donc, je les ai rencontrés les 3, juste avant la générale. Et
on a donné des coups de fouet.
non, mais j'en ai parlé.
C'est un si bémol.
Alors, justement, il y en a plusieurs. Il y en a certains qui me disaient, ah, oh, je suis désolé, est-ce qu'il manque pas un bécard ici dans la partition? Et dans ma tête, je dis, oh mince, il a vu une faute. Et j'ai même pas vu la faute. Et effectivement, on a corrigé. Et là, j'ai dit, bon, et lui, il est bien parti. Il a vraiment lu la partition.
Un grand chef.
Ouais. Ok. Eh ben, écoutons.
J'ai rien dit sur la partition, en fait.
Mais. Parce que là, 7 minutes et mon très longue introduction.
Non, c'est trop long.
Écoutons un peu de musique. Et après, de toute façon, tout va se dérouler et on va en parler. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus Paris. On écoute Delirium Scherzo par le compositeur Régis Campo. Et j'ai pas mes notes pour savoir qui le joue. Mais je vais aller les imprimer. Et donc on écoutait un extrait de Delirium Scherzo du compositeur Régis Campo, qui était dirigé, alors on a retrouvé le nom, Satoshi Yoneda, et donc par le Dutch Radio Philharmonie.
De Stuttgart.
Oui, sûrement. On les embrasse, on les embrasse. Régis, tu es compositeur, prof, boulanger, non, ouais. Restons un peu sérieux. Alors cette pièce, alors moi ça m'a intrigué un petit peu quand tu me l'as envoyé. Parce que alors nous on est très Fluxus, on est très musique atonale, etc. Alors sache que j'ai rembarré des jeunes qui jouaient de la musique néotonale, enfin pas rembarré mais j'ai mis une petite pique.
T'as bien fait.
Et justement alors pourquoi j'ai bien fait, et alors toi dans ta musique en fait on pourrait qualifier ça de trop facile d'écoute comme musique contemporaine, comme trop quelque chose de trop direct. Je n'en suis pas sûr et j'ai pas forcément cette impression, mais qu'est-ce que tu dirais par exemple à quelqu'un qui dit ah bah non mais ça c'est pas de la musique contemporaine,
comment dire.
Des questions bien à toi, signé Michael.
Ça commence bien. J'aurais pas dû amener une bouteille de Côte du Rhône.
J'en ai une deuxième, t'inquiète pas.
Et non, ce que je veux dire, c'est que j'aime bien faire le contraire de ce qui est prévu, en fait. Donc, quand j'étais chez Grisé, ils nous disaient de ne pas faire ça, de ne pas écouter ça, de... Voilà.
Ils disaient de ne pas écouter
quoi, vraiment,
par exemple
Philippe Glass... Arvo Pärt, c'était hors de question, parce qu'ils nous disaient « Ah, il a tout compris ». Enfin, c'était assez méprisant.
Okay.
Ligeti, il y avait des choses, mais pas tout.
Et Ligeti, il était comment, un peu? Parce que moi, c'est mon côté fanboy.
Mais, enfin, il n'était pas facile avec ses élèves. Enfin, moi, je ne l'ai pas eu comme professeur, mais... Il était ambigu aussi, mais ouvert, en fait. Il aimait faire le côté, comment on dit, disruptif. On fait l'inverse, on casse tout. Ouais. Et moi, j'adore faire ça, justement.
Ouais, ok.
Et c'est pour ça, j'aime même choquer les néotonales en allant dans leur jardin, mais mieux.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais, je comprends.
Et si on me dit une chose, je dis heureusement que t'es pas comme ça, je vais faire le contraire exprès. Enfin, c'est un travers que j'ai depuis tout petit. Hein, donc,
Alors, ce Delirium Scherzo, y a un côté Delirium, justement. Et comment tu l'amènes un petit peu, enfin, je sais pas, musicalement, enfin, qu'est-ce que t'as à en dire de cette pièce un petit peu?
Il y a une chose que là on n'était pas d'accord avec Grisé, c'est lui il était soi-disant obsédé par la forme, alors que moi je trouvais ses pièces trop longues et vraiment j'avais des petits bâillements vers la fin et j'ai évité d'écouter un peu trop sinon je me décrochais la mâchoire et après j'étais obligé d'aller à l'hôpital donc voilà. Et un peu Boulez c'est pareil hein, je sais plus, attends, comment ça s'appelle, Dérive 2.
Ouais.
La cinquième heure, j'ai du mal. mais j'aime bien le premier Dérive qui est assez court. Et donc, c'est la question de la forme. Mm. Quand j'ai fait Scherzo, Delirium Scherzo, j'ai tout fait à l'envers. C'est-à-dire, je savais que c'était une succession de crescendo. Donc j'ai fait, je savais que j'allais terminer par un énorme tutti, un énorme orchestre à la fin. Et donc j'ai tout fait pratiquement à rebours. On commençait en très tranquille.
Ouais, ok.
Et pour faire ça, j'étais obligé d'avoir une structure, pas consonante si tu veux, mais avec des accords classés, mais dans un contexte complètement ailleurs, tu vois. Ça me fait tousser quand j'y pense, parce que j'ai dit accords classés.
Mais d'ailleurs, est-ce que t'as des inspirations quand t'écris une pièce comme ça, ou c'est vraiment tu penses par exemple aux personnes qui vont jouer, et dans ce cas-là, pendant un concours, est-ce que tu te dis... Il faut que ce soit quand même jouable et dirigeable du coup pour ces chefs, pour ces jeunes chefs qui vont passer le concours. Ou est-ce que tu as tes inspirations aussi et tu tires ça?
Tu as raison de me dire ça parce que c'est un équilibre entre les deux. À la fois, je fais comme si la pièce avait toujours existé, que c'était le chef-d'œuvre qu'on a joué 8 millions de fois et qu'on jouait à ce moment-là. Et puis, il y a le... Il y a quand même la partition doit être un peu difficile à diriger, avec des changements de tempo, des accélérando, plein de choses, des choses trap un peu. Et donc j'ai fait la pièce un peu pour les deux. mais qu'elle... C'est-à-dire, comme c'est par succession de crescendo, c'est comme un thriller ou une série, il faut que le dernier épisode de la première saison soit, ne déçoive pas pour donner envie à continuer. Donc c'est un truc par échelle. L'histoire, et ce que je reproche au Néotonal, c'est que je m'ennuie complètement quand j'écoute leur musique. Je ne citerai pas de noms, mais bon, on en a plusieurs peut-être des noms en tête. Mais c'est que cette sorte de truc... mollasson, un peu modal, avec des phrases qui datent des musicales, qui datent des années 20. Ouais. Mais vraiment dans le style, dans l'orchestration elle-même, et qui sont ringards en fait. Voilà. Donc et surtout la forme est. C'est une défaite absolue et.
un peu dur.
Et je me suis aperçu que dans l'écriture de la forme, de, je sais pas, de compositeur de musique de film, quand Morricone fait 4 minutes de musique pour un film, ouais, c'est un tube absolu. Ou alors une pièce de Ron, par exemple, dans un électropop. Oui. Là, en ce moment, j'écoute beaucoup de trucs comme ça. La forme est parfaite. C'est 3 minutes, 30, 4 minutes, mais il n'y a rien enlevé, tout est équilibré. Et dans les néos dont tu évoques un peu, c'est des gros trucs, des concertos avec 3 mouvements, enfin, au secours. Mais,
oui, on reviendra peut-être un petit peu à ça. Après, moi, justement, tu as gagné les victoires de la musique, incroyable, avec ton concerto pour...
Térémine.
Il
fait des gestes.
Je mime.
Ça passe bien la radio. Hein,
j'essaie de l'instaurer, mais personne ne me suit. Avec ce concerto pour Térémine. Alors moi, c'est rigolo. Ce concerto pour Térémine. J'ai totalement un peu entendu du Stravinsky. Enfin, quelque chose dans la battue et dans le rythmique totalement stravinskien. Et en même temps assez pop, assez néo-tonal, enfin ou tonal, on sait rien. Et alors justement, où est-ce que tu te positionnes un petit peu dans cette scène, ton style d'écriture, etc. Est-ce que alors tu as ta patte forcément, mais où est-ce que tu pourrais te dire ah bah ça c'est mon style, ça c'est le style Régis Campo ou quelque chose comme ça.
C'est dur ce que tu me dis. Alors, tu sais, j'ai amené le klaxon hein, pour.
Vas-y, t'inquiète pas. Après, j'ai
pas.
J'ai des questions encore plus.
Non, je réserve pour plus. Après. Ouais. Je sais que ça va crescendo. Mais ça va, je partirai pas du studio. Hein, si t'en fais pas. Le style. Il y a un truc. Enfin, je sais pas un cliché. Je suis marseillais. Et j'aime tout ce qui est comédie, l'humour et tout. Donc quand j'étais petit, même dans la récréation, j'avais un pote et on improvisait des numéros de cirque. Donc je faisais le clown triste et lui faisait... mais on improvisait n'importe. Et même en vacances pour le ski, on nous disait « Ah, tu fais le spectacle, hein, vous faites tous les deux ». Après, j'ai fait des musiques de scène, des musiques des sketchs ou des pièces de théâtre, des choses comme ça. Bon. Et après, mes idoles, c'était les compositeurs de musique de film. C'est pour ça que j'ai rencontré Morricone plutôt que Luciano Berio à Rome. Enfin, tu vois tout ce processus.
Il était gentil, Morricone ?
Non, pas du tout. Ah ouais. Non, c'est pas qu'il était pas gentil, mais en fait, il était assez raide. Hein, enfin,
voilà. Ouais, okay.
Mais Vladimir Kosma, je l'ai rencontré, lui, il avait un humour en son temps. Bon. Et en rencontrant et Gabriel Yared aussi, par exemple. Et quand je les rencontre, je me dis, mais je les aime et je comprends pas souvent les compositeurs dits de musique contemporaine. Et quand je parle d'eux avec Vladimir et Gabriel, ils se sentent pas concernés. Ils disent, mais c'est quoi ça? Ils sont prétentieux et voilà. Alors qu'eux, ils sont de partout dans le monde entier. Ils se disent pas, est-ce que je suis néotonal, tonal, modal, atonal? Ouais. Et tu vois, tout ce genre de discussion. Et donc, c'est quelque part, je te réponds à ta question.
En me disant que ma question, c'est de la merde.
Non.
Il n'y a pas que tu m'aimes, très bien.
Mais c'est une question de terminologie. Peut-être si on réécoute dans 20 ans, peut-être tous les termes sembleraient datés, en fait. Tu vois.
Oui, et puis finalement, chacun fait sa musique et je pense que chacun a sa patte, ou chacune d'ailleurs. Et, mais c'est là où...
Mais les néo-tonneurs, même pas du tout. Hein,
non, non, mais ça me pose beaucoup, beaucoup de questions, notamment à la musique dite intellectuelle. Alors, est-ce qu'il faut que ça soit un télo ? Est-ce qu'il faut que ça soit indéchiffrable pour l'écouter ? Ou inversement ? Et toi, justement, alors, je me pose beaucoup de questions, notamment sur tes partitions. Est-ce que, par exemple, c'est accessible pour les instrumentistes ou comment ils l'apprennent, en fait, ta musique, les instrumentistes ?
Elle n'est pas vraiment difficile à jouer.
Ah, autant jouer du boulez.
Boulez, ce n'est pas tellement difficile, finalement. Ouais, il y a plus difficile,
oui,
évidemment, comme
oui,
tu
bien
sais. Moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple des compositeurs aussi comme Anton Feldman ou Tom Johnson, ou des sortes de minimalisme où ils délirent sur trois notes, ou la Monte Young où c'est sur un accord, c'est hallucinant, Terry Riley, ou il me pose pas la question si Anton Feldman est tonal ou si la Monte Young, ah, c'est un accord parfait, tu vois, mais il y a quelque chose qui se passe avec eux que je n'ai pas dans la production française de la même époque, en fait.
Oui, bah, oui, c'est sûr que c'est une production différente. Et toi, t'es allé en Amérique pour étudier un peu ces compositeurs et tout ?
Non, en fait,
c'est... Les Amériques. Aux États-Unis ou...
Non,
ou
en fait, en 2001, c'est Ken Nagano qui m'a contacté pour une pièce, pour orchestre. Il était à l'époque avec l'orchestre de Berkeley, donc c'était la première fois que j'allais en Californie. Et c'était juste après le 11 septembre. Et donc mon concert j'étais pas là au premier concert parce que c'était une semaine après, mais la fois d'après j'y suis allé et j'ai senti un vent de liberté en Californie à San Francisco et j'ai respiré en fait parce qu'il se posait pas la question. J'étais un Français. Enfin, les Français sont très appréciés en Californie, je dois dire. Mais bon, peut-être pas.
Peut-être que j'aille en Californie.
Ouais, mais quand en Californie, hein, faut... Aujourd'hui, faut pas aller dans les autres États, à mon avis.
Mais alors, peut-être après, on va refermer un peu cette parenthèse pour revenir sur ta profession de prof, justement, etc. Enfin, et d'autres choses. Mais justement, comment tu... Parce que finalement, tu vis à Paris quand même ?
Oui, bien sûr.
Et alors, comment t'es vu de la scène parisienne ? Alors, la scène parisienne, c'est compliqué. Enfin, là, on vient de sortir, du Festival Présence, qui démontre... alors, j'ai encore rien dit. Qui démontre quand même une certaine musique, un certain type de musique, qui est louable ou pas louable, ça c'est pas forcément à nous de trancher. Mais toi, du coup, comment tu te positionnes là-dessus ? Et alors, est-ce que genre par exemple, si on va tous les deux à un concert à Radio France, est-ce que si on y va bras dessus avec un Côte du Rhône, et ben est-ce que tout le monde me dévisage et est en train de dire ah non, il a basculé du côté obscur. T'as vu, mes questions sont très précises.
Ah, très très bien. Non, en fait, quand ça a commencé, présent, je me rappelle, il y avait, c'était assez toujours les mêmes courants esthétiques. Mais il y avait Edition de Denisov, je me souviens, les Russes, ça c'était bien. Il y avait une saison avec Xenakis, donc c'était génial. J'ai vu Xenakis, on avait joué Jonché, la pièce pour orchestre que j'adore. Hein.
Yes.
Et ensuite, il y a eu des compositeurs plus consonants, dissonants, peu importe. Et est arrivé Steve Reich, là c'était super aussi. Et puis là c'est Georges Lapergui, ça n'a rien à voir. Donc c'est le théâtre musical que j'adore aussi.
Mais il n'y a pas le côté théâtre, quoi.
Ouais, il y a pas le côté théâtre, mais on peut aimer les deux. Je veux dire aussi bien Apergis que Steve Reich et
oui, bien sûr.
Et après il y aura Arvo Part.
Oui. D'ailleurs, t'as eu une commande pour Arvo Part, toi, parce que t'es le premier. Enfin, moi, tu vois, justement, dans ma tête, t'étais le premier commandé.
Ah bon.
Bah on va te commander.
Non, ça vient. Non, ils ont oublié peut-être.
Enfin, ah ouais. Non, mais en tout cas, moi j'ai envoyé un mail.
non, mais. Mais j'ai.
Oh, il est pas parti dans les brouillons.
On m'a dit un peu c'est Laurent Villarem qui m'a un peu dévoilé les pièces de Arvo Part. C'est super intéressant parce qu'il y a plusieurs périodes. Et c'est génial qu'il fasse Arvo Part. Et puis après qu'il fasse un autre compositeur un peu plus dissonant, tout ça. Mais voilà. Mais il y a une chose, c'est qu'on fasse un peu tout le monde. Voilà.
Ouais.
Qu'on peut faire des frustrés, tu vois.
En fait, ce que je voulais dire par cette représentation de présence, c'est quand même quelque chose d'assez figé, d'assez institutionnel. Et alors, par exemple, si je me disais, si demain, je sais pas, on me proposait de faire un concert un espace public ou quelque chose comme ça, et ben je me dirais, on pourrait jouer ce Delirium Scherzo. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on écoute de la musique parce que là, ça fait 20 minutes qu'on blablate. Mais on pourrait jouer ce Delirium Scherzo. Typiquement, à présent, ça, apparemment, ça le fait pas. Toi, pourquoi ? J'imagine bien, en fait, quand j'écoute les compositeurs ou les compositrices, soit qui sortent du CNSM, soit qui sont institutionnalisés, tu dénotes un petit peu dans le paysage. Et
toi aussi.
Comment tu le prends ? Moi, je diffuse rien, donc c'est une autre question. Comment tu le prends en fait ? Est-ce que tu es mise à l'écart ? Est-ce que tu te sens une mise à l'écart ?
Non, je pense pas. Non. Les trois compositeurs qui enseignent, que je connaissais, c'était Stefano Gervasoni, Gérard Pesson. J'ai oublié le troisième.
Gervasoni, il était là avec nous. Il y a un mois.
Ah oui.
Un mois et demi.
Il est très sympa. Gérard Pesson. Et Frédéric Durieux. Ah bon ?
Non, je rigole.
Ah bon. Mais il y a Frédéric Durieux, mais il m'aime beaucoup en fait. Mais parce que je suis un peu un troublion, le truc décalé.
Ouais.
Je suis pas sûr, parce que si je présente mes pièces en anonyme dans le concours d'entrée pour entrer dans une classe composition, je suis pas sûr d'être reçu.
C'est ça qui est bien.
Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est un peu ambigu parce que Gérard Griset nous disait soyez personnel, cassez les codes et tout. Mais en fait, il nous disait pas trop 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 non plus. Et puis faites un peu comme moi parce que sinon vous serez des ringards. Et c'était assez un peu dirigé. Ça, je l'ai très très mal pris. Tu vois, par exemple. Il disait, si vous ne faites pas la microtonalité, vous êtes un ringard. Après Ravel, on ne peut plus composer de mélodie, il me disait. Enfin, tout un truc. Ouais. Dès le premier cours, je ne l'ai pas écouté. En fait, je faisais l'inverse de ce qu'il voulait.
Très bien.
Et d'ailleurs, il ne lisait pas mes partitions. Tu vois l'état d'esprit. Et,
ouais.
Alors, tu peux devenir un compositeur spectral dans sa mouvance et tout. Très bien. Il y en a des très bons et tout ça, mais on n'est pas obligé non plus.
Très bien. Et bien sûr, ces mots, nous allons continuer en musique, écouter Street Art, composé par Régis Campo. Et comme je dirais moi, taboulé raisin. C'est joué par l'ensemble TM+, et conduit par Laurent Cugnot. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris, Radio de l'amour. Et d'autres choses. on est avec Régis Campo. On se retrouve dans quelques minutes. Écouter un extrait de Street Art composé par Régis Campo ici présent et c'était par l'ensemble TM+, conduit par Laurent Cugnot, qu'on salue bien entendu sur le label Signature Radio France qu'on embrasse bien entendu. Alors
on voulait parler aussi de la double casquette ouais. que tu as, Régis, c'est en ça. Tant que compositeur et que professeur, puisque nous avons la chance d'avoir un de tes élèves, un de tes anciens élèves, d'ailleurs.
Hugo Ferrat. Et d'ailleurs, très bonne question posée par Capucine Picard.
Merci. Et donc, comment est-ce que tu enseignes la composition? Comment est-ce que tu as ce double rôle? Comment tu gères tout ça? Ça va? Ouais,
c'est... Est-ce que tu as une règle en bois?
Où tu frappes les élèves?
Oui. Oui.
Alors, je suis content que Hugo soit là. Je ne savais pas qui serait à l'émission. Donc,
c'est une surprise. Comme les crêpes.
Et enseigner, c'est super. Parce que Hugo venait avec des partitions, mais il va nous en parler. Et on a toujours des doutes quand on compose, on est un peu dans le brouillard, et moi le premier, hein, donc je ne sais jamais comment ça va se terminer avec la partition. Et on voit ça avec des collègues un peu plus jeunes, mais c'est, là, au contraire, on apprend des nouvelles générations et... on compatit, on est en empathie dans le processus et on n'a qu'une envie, c'est que la semaine d'après, ça aille mieux. C'est-à-dire que la partition avance et que... Parce que moi, le truc, c'est de voir un des étudiants qui sont des amis, en fait, qui sont dans la défaite et qui se disent « je laisse tomber la pièce, je compose plus ». Pour moi, c'est terrible. Donc, je fais tout pour... les mettre dans une situation d'avoir envie de continuer, de leur trouver un détail. Voilà.
Et tu auras un conseil pour les gens qui sont découragés en composition, justement?
Ah.
Qu'est-ce que tu leur dirais s'ils se ramenaient en larmes avec deux mesures?
Tu veux dire, si quelqu'un vient dans ma classe, à Marseille ou à l'école normale, et en larmes, déjà je le ferai rire et je ferai écouter des choses qui peuvent l'intéresser et je désamorce le truc pour qu'ils aient... une envie de continuer, mais alors je cherche plein de systèmes, j'ai plein de trucs si tu veux. Mais il faut demander à Hugo, je pense.
Non, c'est vrai que dans les classes de composition avec toi, ça a été toujours, il y a toujours eu un élan en fait. C'est ça qui était très positif, c'est qu'on sortait du cours ou du moment avec toi, parce qu'on avait toujours un moment personnel avec toi, où on ressortait avec une envie de continuer. Et du coup, je ne sais pas, tu trouvais toujours en fait une façon de... peut-être un motif qu'on avait écrit, comment le continuer, comment avancer avec ce motif et en quoi c'était intéressant, en quoi ça nous apportait quelque chose. Et ce qui était très intéressant avec toi, c'est surtout que tu nous disais d'aller jusqu'au bout de nos envies et de ce qu'on avait commencé à écrire. Donc ça, c'était vraiment toujours... très inspirant. Voilà, tu nous disais vraiment ce que en tout cas j'ai appris à tes côtés, c'est d'avoir notre style et de pas avoir peur en fait d'aller jusqu'au bout de notre style. Et donc pour quelqu'un qui aurait écrit deux mesures, tu lançais toujours un élan en disant c'est déjà bien et c'est déjà quelque chose qui est inspirant pour la suite, quoi.
Ah, merci Hugo. Ouais.
Et alors moi, avocat du diable, si je me pointe chez toi et que j'écris du néo-sérialisme et que je veux faire du néo-sérialisme, qu'est-ce que tu me dis?
C'est arrivé, hein, plein de fois. Hein,
je confirme.
Et alors, dans ces cas-là, justement, parce que on a reçu Stefano Gervasoni.
Gervasoni,
oui. Des bisous, Stéphane. Bref. Et il nous disait, oui, je respecte. Enfin, je vais totalement dans l'esthétique de mon élève et j'accompagne son mystère. Alors,
c'est
mots. Et justement, il disait, moi, mon travail, c'est de faire évoluer le mystère dans l'œuvre de mon élève et de vraiment façonner ça. Et alors, comment ça s'est passé, justement, pour tes élèves qui post-sériel? Est-ce que tu as accompagné leur mystère?
Oui, je leur ai accompagné. Et c'est difficile de parler parce qu'il se met à rire. Et en fait, j'accompagne. C'est un peu poétique. Hein. Moi, je dirais pas accompagner son mystère, parce que bon, on n'est pas dans la jungle, dans le noir et tout le mystère avec les. Comment dire? En fait, si tu me présentes tes partitions, je verrais que tu es très à l'aise avec ce que tu veux faire.
Ah ouais.
Donc, tu n'es pas décalé. Parce qu'il y en a beaucoup qui peut-être composent une musique qui ne qui leur plaît pas en fait. Mmh. Ils se forcent à, soit dans la direction tonale ou atonale ou ce que tu veux. Et mais toi tu es en osmose avec ce que tu veux faire. Maintenant, que ça plaise ou certains ou pas, peu importe. Mais ouais. et c'est à moi de recadrer si je sens que il y a, comme tu disais Hugo, il y a l'histoire de la peur. Il y a certains qui ont peur de composer dans cette direction-là, ils vont se dire qu'est-ce qu'on va penser et tout. Mais on parlait d'Arvo Pärt tout à l'heure. Lui, il a pas eu peur. Enfin, il a eu une crise pendant des années et puis il a composé cette petite pièce pour piano avec son style et il a pas eu peur parce qu'il s'est dit il n'y a rien à faire, c'est ma vie, c'est comme ça, je fonctionne comme ça, et il est authentique. Voilà, c'est ça, et je ne supporte pas, et j'en ai rencontré, bon, c'était Grisé, mais d'autres encore, qui ne voulaient pas qu'on soit en osmose avec soi-même, ils voulaient qu'on soit un disciple.
Alors moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé dans ton cours. C'est que je suis arrivé avec des partitions qui étaient très intellectualisées et qui n'étaient pas vraiment personnelles. Et je pense que tu t'en es rendu compte, donc ce que tu dis est très fort. Et vraiment, tu as compris, j'avais du mal à composer beaucoup. Je composais très peu. Et du coup, c'est toi qui m'a permis de prendre conscience justement de ça, de cette réalité qu'il faut assumer qui on est et assumer en fait notre personnalité dans la musique, quoi.
J'ai adoré ta personnalité quand tu me montrais. Je sentais qu'il y avait une dimension pop très forte. Et puis à un moment donné, il y a un déclic qui se fait et j'ai senti qu'il était dans sa voix et ça partait tout seul. Donc là, à des moments, ça va très bien. Mais à des moments, je suis devant un mur, hein. Ça avance pas du tout. J'ai l'impression que l'élève va suicider en sortant de la classe. Enfin, c'est difficile d'enseigner. Non, surtout pas. Surtout pas. Non, il est très bien avec ce qu'il fait. Voilà. Donc.
Très bien. Eh bien, écoutons. Écoutons. Alors attendez que je mette tous mes onglets.
C'est le
Quatuor à cordes. Oui, Quatuor à cordes numéro 1.
Ah ouais.
Les Heures Maléfiques 2005, Quatuor Diotima, qu'on remercie toujours par leur sourire. mais en tout cas, ils sont là pour ce Quatuor à cordes numéro 1. T'as une petite clé d'écoute?
Bah, en fait, c'est mon premier quatuor. En fait, c'est un peu une poubelle. C'est-à-dire,
Adoré, mais désolé.
Oui, je sais, mais je l'ai réécrit plusieurs fois parce que j'ai tout mis. Ça voulait plus rien dire. Donc, je l'avais écrit pour le quatuor Isaïe.
Okay.
Je suis toujours pas sûr qu'ils aient aimé. De toute façon, ils n'existent plus, donc c'est pas grave. Et donc, on l'avait créé à Bonn. Donc Beethoven.
Bonne. Oui, comme un bon bourguignon, s'il te plaît.
Ouais,
sympa comme un marseillais.
J'ai pas un bon souvenir, donc j'ai tout réécrit pour le disque avec Diotima, justement.
Ok.
Je sais pas comment dire, mais c'est un peu la pagaille. Il y a des univers que j'aime bien parce qu'il y a plusieurs tempos superposés. Il y a tellement de compositeurs, je ressens dans le quatuor, peut-être Ligeti, le Dutilleux aussi, hein, c'est la nuit, enfin, et d'autres. Je sais pas ce que t'as pensé de ça.
Je suis tombé dessus un petit peu par hasard. Souvent, tu m'as envoyé plein de trucs et j'ai sélectionné.
Comme
deux tiers de ce que tu ne m'as pas envoyé.
J'espère.
Écoutons donc ce quatuor numéro 1 par Régis Campo, ici présent. Ouais. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris, et donc ça c'est le quatuor Diotima, et on se revoit dans quelques minutes pour la fin de l'émission.
Ne partez pas.
Thank you.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus. On écoutait un court extrait du premier Quatuor à cordes de Régis Campro, ici présent. Comment ne pas le louper. Régis, non mais vraiment, c'est une question difficile. Justement,
ouais.
Tu sais, tous ces trucs atonaux. Vas-y. Tous ces trucs atonaux, etc. C'est post-seconde guerre mondiale. Il y a un côté vachement, justement, je faisais la blague tout à l'heure, taboulé raisin, mais tabula rasa. Genre, un côté les néoclassicismes dehors, etc. On ne peut plus faire ça. Compliqué, enfin, justement. Et toi, justement, dans cette histoire, dans cette historique, parce que il y a quand même vachement ce truc là un peu presque anti-fasciste, de dire on fait plus de musique néoclassique. Et des fois dans ta musique, je retrouve un peu ce truc d'accord, etc. Un peu néo-tono, ou même on parlait de Stravinsky tout à l'heure, d'inspiration, etc. Enfin, pour moi, de quelques éclats. Et alors là, en fait, on vit dans une montée un peu du fascisme actuel.
C'est clair.
Et dans quel cas cette musique que pourraient certaines personnes classer néo-classique comment tu sens tout ça envers toi et ton art et envers ta composition? Tu as 6 minutes.
Non, mais tu fais bien de poser cette question. C'est dommage qu'on puisse pas développer longtemps, mais tout à l'heure j'ai entendu un écrivain français, en fait, qui est d'extrême droite, mais qui te dira qu'il est pas. Il s'appelle Richard M. Voilà, bon. Et
il a.
Non, c'est facile à retrouver. Et je le connaissais avant, mais je pensais pas qu'il était autant d'extrême droite. Et il a dit récemment, sur une chaîne qui s'appelle CNews, donc c'est facile à retrouver, que Nakamura. Moi, j'écoute pas forcément tous les jours Nakamura. Bon. Mais n'empêche, je l'ai trouvée très marrante quand elle a fait les Jeux Olympiques.
C'est une complètement. Artiste, ça reste quand même une artiste.
Bah oui! Et il y avait aussi Philippe Catherine, que j'adore aussi, donc Luxor, tout ça. Donc, de voir ça comme Le fascisme, c'est être contre ça, en fait. C'est de, ouais. De pas être fun et de pas voir que, en fait, il y a un humour, il y a une, c'est décalé et tout. Et de pas s'énerver. Ça empêche pas, on va pas détruire le passé avec eux. Donc, mais de pas boire le café avec eux, un bon vin. Ou de ne pas les fréquenter, ça va pas du tout. C'est notre époque qui est comme ça. On peut rigoler, essayer de voir Nagamura et voir la garde républicaine sur le pont des Arts danser. Et je trouve ça rigolo. Mais on peut aimer aussi la Traviata, alors que lui il disait moi je préfère la Traviata à Nakamura, mais ça a pas de sens cette phrase.
C'est pas comparable.
Voilà. Et le fascisme, le néo-fascisme, je sais pas comment dire ça, c'est qui est présent, hein, parce que à Marseille ils sont à 30%. Mais ils passeront pas, je pense. Mais c'est de rejeter, mais d'une manière inacceptable, tout ce courant qui est pas méchant, je veux dire, oui. c'est notre époque.
Mais comme tout à l'heure, tu disais Terrone, etc.
Oui, voilà, et Philippe Catherine, peut-être, c'était pas au goût de tout le monde de le voir sur des... Ouais. Mais bon, c'est un artiste, il a son univers, et on peut aimer en même temps Morton Feldman, la Traviata, et vous voyez tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Et je sais plus ce que tu me disais sur...
Je sais plus exactement, mais
tu vois,
encore voilà. Pour conclure, pour une question qui pourrait durer 40 minutes. Et justement, ce truc de l'entertainment, etc. Enfin, toi, on n'a pas du tout le temps. Je propose, avant qu'on établisse des questions, redatons-nous.
Une
émission à propos du néoclassicisme et peut-être du néofascisme.
Il y a un truc que je vais dire, c'est que il y a un horrible fasciste qui s'appelait Rebatté, qui a fait une histoire de la musique. Et étrangement, mais vraiment néo, il disait, c'était sur les antennes de France Culture à l'émission de Jacques Chancel, et c'était l'inverse. Il adorait la musique de Boulez et ultra d'avant-garde. Donc, c'était pas du tout le néoclassicisme. Tu vois, c'était l'inverse.
Ouais.
Et donc, c'est très compliqué, cette histoire. Tu vois ce que je veux dire?
Mais parlons-en. Mm. Et avant de terminer, allons-y, mettons ça en bed. Ça va nous éclaircir un petit peu. Merci Régis Campo.
Non, c'est moi. C'est moi.
Désolé pour cette question trappe à la fin.
Ah non, mais il fallait continuer.
C'est une trappe avec beaucoup de crochets dedans. mais des
merci
crochets, Mickaël, c'est rond, donc Mickaël, ça va.
Merci Hugo, non, et merci Marilou.
Merci Cécile, merci Hugo, merci Marilou. Ah, la technique, on adore.
Plein d'amour.
Merci Maëlle, tu es là par la pensée. mais pas par la voix. Altea et Donna upside down. Oh mon dieu, uptown top ranking. Si je commence à oublier mes classiques, un peu de reggae parce que en fait je voulais finir cette émission comme ça. C'était pour enseigner aux gens, parce qu'il y a pas mal de gens de la scène de la musique contemporaine qui n'écoutent pas d'autre chose. Enfin, ou peu d'autres choses, et donc écoutez du reggae.
Ouais.
Vous êtes toujours avec de Radio Campus Paris, je crois que c'est la seule émission de musique contemporaine où on finit par du reggae. Et restez intellectuels, restez open intellectuellement et musicalement. Et...
Il y a un blanc là.
On va relancer, on relance. Voilà, c'est ça. Et à dans deux semaines.
Et plein d'amour.
True, them I know and ting. Why have them going and ting? Radio Campus Paris. Il est 22h.
NOVO RAMA. Novorama.
Salut Clément.
Salut Antoine.
On vous donne rendez-vous chaque semaine sur Radio Campus Paris.